Radio Okapi.
Bienvenue à cette édition du journal. Rien ne va dans les hôpitaux publics. La prise en charge des malades se complique de plus en plus. À la base, la grève déclenchée par différents syndicats de médecins. Ils réclament la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Nous ferons le point au centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mamayemo à Kinshasa. Nous serons aussi au Kasaï Central. Dans l'actualité aussi, ces bombardements hier du village Moulima dans Fizi au Sud-Kivu par des drones du M23 et ses alliés, au moins 18 morts et plusieurs blessés dont des déplacés, des enfants et des humanitaires. Comme invité le coordonnateur provincial de la MESP, la Mutuelle des Santé des enseignants de l'EPSP au Maniema, la site compagnie nous parle du début effectif de la prise en charge médicale des enseignants de Kindu par cette mutuelle. Bonjour. Les blouses blanches poursuivent leur mouvement de grève dans plusieurs hôpitaux publics de la RDC. À Kinshasa, par exemple, les établissements de santé sont presque au désert, cas du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo. Ici, médecins, infirmiers et autres administratifs sont presque invisibles. Les rares prisons sur place restent inactives, mettant en difficulté les rares infirmiers qui travaillent. Les patients déjà internés, très inquiets, se disent abandonnés à leur triste sort sans bénéficier de soins. De nouveaux malades qui arrivent à l'extérieur sont eux carrément renvoyés à la porte. Radio Okapi s'est rendu sur place pour constater la situation. Ce reportage est signé Blaise Ndongala.
À l'entrée principale de l'ex-Mamayemo, le climat est maussade. Il n'y a ni engouement, ni effervescence comme d'habitude. Cette atmosphère traduit déjà un malaise dans cet établissement hospitalier public où les médecins ont cessé le travail pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Un patient rencontré sur place indique ne pas avoir bénéficié des soins depuis plusieurs jours et affirme même son intention de quitter ses lieux pour se rendre dans une structure privée.
Comme les médecins ne sont pas là, ça va vraiment à pas de tortue. Et dans l'autre temps, comme la facture ne fait que gonfler, je suis obligé de quitter l'hôpital et rentrer. Les infirmières passent, mais les infirmières ne font qu'exécuter ce que les médecins leur demandent. Il y a eu des journées, où, par exemple, comme vendredi et samedi, où je suis resté presque inerte, rien faire, il n'y avait presque pas de traitement.
Dans de nombreux cas, ce sont les infirmiers qui tentent d'assurer un service limité, mais leurs compétences ne suffisent pas à remplacer les diagnostics et les suivis des médecins pour les cas graves. Entre-temps, les médecins des différents syndicats, notamment des Silimed, durcissent le ton en réclamant les paiements d'arriérés allant jusqu'à 6 mois, dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement et exigent des mesures liées à la mécanisation ainsi qu'à l'alignement de la prime des risques.
Et c'est presque le même tableau sombre du côté du Kasaï central. Les médecins sont quasi invisibles dans les hôpitaux publics, sous la suite, évidemment, à la grève déclenchée depuis jeudi par les médecins membres du syndicat des médecins du Congo. Des blouses blanches ont carrément cessé le travail. Et là encore, des consultations sont suspendues, des patients sont orientés vers d'autres structures médicales. Nous faisons le point avec André Katendengalamoulumé.
Les médecins du CIMECO au Kasaï central ont déserté les hôpitaux et les centres de santé depuis jeudi. À Kananga, les conséquences sont déjà visibles. Dans plusieurs structures sanitaires, des patients attendent pendant des heures. Certains lassés finissent par rebrousser chemin. Ceux qui sont internés ne reçoivent pas tous les soins nécessaires. Les infirmiers prennent en charge les cas les moins compliqués. Mais lorsque la situation devient difficile, ils ne savent quoi faire. Jusque-là, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux revendications du syndicat. Le secrétaire exécutif provincial ad intérim du CIMECO, Dr Nicolas Chitebois, prévient que la grève se poursuivra jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Une situation qui pénalise avant tout les patients, étant donné que le médecin du syndicat national de médecins, Sinamed, était déjà en grève depuis plus d'une semaine. Kananga, André Katendengalamoulumé, Radio Okapi.
Place à cette bonne nouvelle en provenance du Nord Kivu. Les postes frontaliers reliant la ville congolaise de Goma à la ville rwandaise de Gisenyi ont rouvert leurs portes. L'annonce a été faite jeudi par les autorités compétentes. La décision intervient après 47 jours de fermeture. La reprise du trafic est justifiée par l'absence de nouveaux cas confirmés d'Ebola à Goma. La seule patiente déclarée positive a été officiellement guérie il y a plus de 2 semaines. Bernard Denyangui nous dit ce qu'il en est.
Selon plusieurs sources officielles, la réouverture des postes frontaliers entre Goma RDC et Gisenyi Rwanda marque un assouplissement des mesures prises pour contenir la propagation de la maladie virus Ebola. Cette reprise reste conditionnée au respect strict des dispositions sanitaires en vigueur au poste de la petite et de la grande barrière dite la corniche. Après près de 45 jours de fermeture ou de restrictions renforcées, la reprise partielle du trafic transfrontalier est accueillie favorablement par les populations des deux côtés de la frontière. Les mesures sanitaires avaient fortement ralenti les échanges commerciaux et les déplacements quotidiens entre Goma et Gisenyi et d'autres destinations de la région d'Afrique de l'Est. Aux deux postes frontaliers, les autorités sanitaires maintiennent les activités de surveillance épidémiologique, de suivi des contacts et de sensibilisation communautaire afin de prévenir toute résurgence de la maladie. Pour rappel, les postes frontaliers avaient été fermés le 17 mai, au lendemain de la confirmation des premiers cas d'Ebola à Goma. Des sources concordantes, nous apprenons que le gouvernement rwandais affirme suivre de près l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et indique qu'aucun cas d'Ebola n'a à ce jour été signalé sur son territoire.
Au moins 18 morts et de nombreux blessés. Bilan provisoire des bombardements de drones du 1-23 et ses alliés hier vendredi matin au village de Moulima, des chiffres donnés par l'administrateur du territoire de Fizi. La même source atteste que ces attaques sont la conséquence des combats intenses signalés depuis jeudi entre les FARDC et les rebelles dans cette partie du Sud Kivu. L'administrateur de Fizi déplore par ailleurs la violation de l'espace aérien de la RDC par l'armée rwandaise. Sami Badibanga décrit la situation difficile sur place et condamne. Il est au micro de
On dénombre des femmes, hommes, enfants, bétail, des infrastructures sanitaires et infrastructures scolaires détruites et plusieurs enfants qui assistaient à leur proclamation dans leurs écoles tués dans le village Moulima, Kangouli et ses environs. Les humanitaires qui assistaient les déplacés internes dans les moyens et plateaux de Fizi, certains sont blessés. Les déplacés internes tués plus de 18 morts parmi les déplacés internes. Par ailleurs, l'on signale le mouvement de déplacement de la population vers Fizi Centre, Baraka, Kananda, Mukera, Kichula et Lumanya, sans protection. Les territoires de Fizi condamnent avec la dernière énergie les violations répétées du territoire national par des avions rwandais.
Sami Badibanga, administrateur de Fizi, notait par ailleurs que toujours hier vendredi, des affrontements similaires ont opposé les FARDC appuyés par les Wazalindo aux rebelles du M23 vers Kaziba, dans les hauts plateaux de Mubuga, Kange et Namubula. Selon les sources locales, ces combats sont également à l'origine de nouvelles tensions dans la région. Nous restons sur Kivu pour signaler la dégradation de la situation humanitaire à Kalehe. C'est la nouvelle société civile de ce territoire qui la dévoile. Son président attribue cette crise aux affrontements survenus depuis le week-end dernier au village de Katasomwa, Bishaka, Ziralo, Lumbishi et Masisi, combat opposant les Wazalendo rebelles du M23. Benjamin Mungazi indique encore que plus de 3000 ménages nouvellement déplacés ont été identifiés dans des localités comme Niabibwe, Mukwija et Muha. Il leur relève que ces familles ont tout abandonné dans leur village d'origine. Elles se retrouvent donc actuellement sans aucune assistance. Benjamin Mungazi nous en dit un peu plus sur les conditions difficiles de se déplacer et leurs besoins. Il est joint par Ronelly Tibonera.
Les déplacés de la guerre vivent une vie difficile dans les villages où ils se trouvent, tels que dans le village de Mukuji Kinezir où nous avons 982 ménages, dans le village de Ruhunde 351 ménages, dans le village de Mouha 256 ménages, dans le village de Nyabibwe 995 ménages et dans le village de Bujuki 198 ménages. Aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux personnes de bonne volonté tous de s'impliquer, venir en aide de se déplacer car ils n'ont rien sur eux pour s'en servir pour cette période difficile et qui demande plus d'assistance et de vivre et non vivre tels que de la nourriture, les objets de la maison de cuisine, bâches, médicaments, en mettant l'accessibilité de l'argent pour les permettre d'améliorer leurs conditions de vie et surtout chez les femmes et les enfants. Nous demandons aux partenaires lors d'identification de passer porte à porte sans discrimination de ceux qui sont dans des chambrettes pour éviter de créer des conflits lors des distributions dans des familles d'accueil et comme ils sont tous en besoin.
Benjamin Mungazi, président de la nouvelle société civile du territoire de Calais au Sud-Kivu. Pendant la présence de cette mutinerie qui a éclaté hier vendredi à la prison urbaine de Kangwaï à Beni au Nord-Kivu, à la base, les détenus militaires réclament le paiement de leurs soldes selon des sources pénitentiaires. Ces mutins affirment avoir le droit de percevoir leurs soldes tant qu'ils ne sont pas encore condamnés. En tout cas, la tension était encore vive dans cet établissement pénitentiaire jusqu'à hier en début d'après-midi. Jusque-là, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Martial Papimoukeba nous relate les faits.
La mutinerie a éclaté vers 11h20 heure locale. Selon des sources pénitentiaires, plusieurs détenus militaires des FARDC qui réclameraient les paiements de leurs soldes sont montés sur les toits de la prison pour manifester leur mécontentement. Les militaires chargés de la garde et de la prison ont effectué des tirs de sommation avant l'arrivée des renforts des FARDC et de la police pour rétablir l'ordre. Selon les mêmes sources, les mutins auraient incendié des matelas des pavillons de détention et vandalisé les systèmes de vidéos surveillance ainsi que des bureaux de l'administration pénitentiaire. Ce dispositif, installé par la MONUSCO il y a un an, avait été renforcé il y a un mois par une dizaine de caméras. Les autorités sécuritaires et judiciaires de Beni se sont rendues sur place pour évaluer la situation. En fait d'après-midi, aucun bilan précis n'était encore disponible, l'accès à l'intérieur de la prison restant limité selon nos sources. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités militaires et pénitentiaires. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Nous sommes le 4 juillet, c'est la journée internationale des coopératives. En marge, un atelier d'échange d'expérience a été organisé hier par le ministre d'État au développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutamba, à l'université de Kindu. Cela a été l'occasion pour les coopératives du Maniema et d'autres provinces de partager leurs expériences, leurs forces et faiblesses ainsi que les opportunités. Objectif principal de cette activité est mutualiser les efforts pour le développement des Congolaises et Congolais. Florence Kizalunga était sur place.
Les différents panélistes qui se sont succédés ont présenté chacun les bonnes visions de leur coopérative, mais tous déplorent les faits qui ne sont pas accompagnés. Manara Mugnololo est le coordonnateur provincial des services nationaux des coopératives et organisations paysannes.
Et les coopératives travaillent dans des difficultés énormes, dans des thématiques différentes. Ils sont dans les mines, ils sont dans l'agro-pastoral, ils sont dans l'artisanat. Et les difficultés qui sont en train de courir, c'est sur les bases d'accompagnement. Parce que notre service n'a pas vraiment de financement nous permettant de les accompagner comme il se doit.
Pareil pour les coopératives des autres provinces, Grasse Kapingamponga et du Kasaï Oriental.
Pour commencer, nous avons vraiment une très bonne vision, une vision qui contribue activement au développement du monde rural, à la création de l'emploi, parce qu'avec ce que nous sommes en train de faire, nous mettons l'accent sur la main-d'œuvre locale, mais cependant, les difficultés ne manquent pas. Nous avons quelques difficultés. Souhaitons vraiment que les gouvernements nous accompagnent dans le cadre du partenariat public-privé.
Célébré pour sa deuxième fois au Congo, Maniema est à l'honneur de cette journée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le poisson se fait rare du côté de la commune de Maluku ici à Kinshasa, un coin pourtant très prisé par ses amateurs. Les pêcheurs du port Moulélé dans cette commune disent exercer leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles. Cela alors qu'ils contribuent chaque jour à l'approvisionnement de la capitale en poisson. Ils dénoncent l'absence d'un véritable port de pêche, le manque d'équipement moderne et l'arrêt de l'appui qu'ils recevaient autrefois du pouvoir public. À cela s'ajoute un autre défi majeur, l'absence des moyens de secours en cas de noyade. Devant cette réalité, ils appellent les autorités et les partenaires à soutenir davantage le secteur de la pêche artisanale et la chimbalou.
Au port Moulélé, dans la commune de Maluku, les pêcheurs affirment se sentir oubliés malgré les rôles qu'ils jouent dans l'approvisionnement des Kinshasa en poissons. Le vice-président chargé de l'administration des pêcheurs de ces sites, Fiston Mandungu, regrette l'absence d'un véritable port de pêche et d'un accompagnement adapté.
Nous sommes considérés mais pas motivés. Ici à Maluku, il n'y a aucun port de pêche. Nous avons aussi besoin de partenaires. Nous faisons de la pêche, mais nous ne nous retrouvons pas.
Il dénonce également la fin des appuis matériels autrefois accordés aux pêcheurs. Pour eux, il y a encore des ans, le gouvernement distribuait des outils de travail chaque 24 juin. Chaque 24 juin, on recevait quelques outils de travail du gouvernement. Mais actuellement, on ne reçoit plus rien. Parmi les anciens de cette communauté figure Atiloswa Nabotomoito. Après plusieurs décennies de travail, il raconte avoir perdu sa pirogue, volée en Tselengamazo, un coup dur qui a bouleversé son activité.
C'est moi le premier pêcheur ici. C'est moi qui a commencé de faire jeter le filet ici dans l'eau jusqu'à Kwamutu. On a volé ma pirogue vers Sele Ngamanzo.
Enfin, la sécurité sur les fleuves reste une préoccupation majeure. En cas d'accident, les opérations de sauvetage se font encore à la pagaille, avec le risque d'arriver trop tard pour sauver une vie.
Actualité internationale.
Iran, les funérailles officielles de l'Ayatollah Ali Khamenei ont démarré aujourd'hui samedi à Téhéran. C'est pour 6 jours. Les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes, parmi lesquelles des représentants d'environ 30 pays. Aucun dirigeant européen n'a été convié. Il sera inhumé le jeudi et prochain 9 juillet au sanctuaire Imam Reza, sur la ville de Mashhad, son lieu de naissance.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur provincial de la Mutuelle de Santé des enseignants de l'EPSP. Compagnie Kalambay Placide nous parle du début effectif de la prise en charge médicale des enseignants par cette mutuelle. Ils s'entretiennent avec Laurence Kisalunga.
Compagnie Kalambay Placide, bonjour.
Bonjour, madame.
MESP débute la prise en charge effective des enseignants de la ville de Kindu aujourd'hui. Dites-nous comment est le processus.
Merci pour la question. Oui, nous avons commencé la prise en lancement officiel de la prise en charge des enseignants aujourd'hui. Le processus, c'est que tous ceux qui ont été identifiés, sont fait identifier, pourront passer dans nos bâtiments dès ce lundi pour le retrait de leur carte, la signature de la charte, et ils peuvent déjà se rendre dans le centre de santé qu'ils ont choisi pour eux, pour leur famille, pour avoir accès aux soins lorsqu'ils se sont malades. Pour qu'un enseignant bénéficie de soins de santé, il doit d'abord être identifié. En ce moment-là, on va lui octroyer sa carte de soins. C'est au moins dans sa carte de soins qu'il pourra se rendre aux structures sanitaires pour le soin de santé.
Alors, certains enseignants ont des inquiétudes par rapport à la prise en charge de l'air dépendant, car la carte est individuelle, rien que pour l'enseignant. Et si l'enseignant voyager, qui est sa famille ou son enfant ou sa femme est tombée malade derrière lui, comment est-ce qu'il va faire pour bénéficier des soins?
Merci pour la question. Nous l'avons dit lors du début de la phase d'identification que nous commençons d'abord avec l'identification des enseignants ou enseignantes, les titulaires. Souffrons un peu de commencer comme cela pour nous permettre de bien avancer. Nous sommes au début, nous ne pourrons pas commencer à embrasser plusieurs branches directement. Nous commençons par les titulaires. Nous avons commencé l'identification des titulaires. Nous avons enregistré les personnes à charge. Nous avons lancé la prise en charge officielle des titulaires et nous allons procéder aussi à l'identification des personnes à charge et puis passer à la prise en charge de toutes les dépendants des enseignants.
Qu'en est-il de l'approvisionnement en médicaments dans les structures de santé? Est-ce que vous l'avez fait? Parce que dans la plupart des structures sanitaires ici, il se pose un peu les problèmes de médicaments que les enseignants affichent déjà leurs craintes.
Oui, par rapport à cette préoccupation, la MESP, avec l'expérience qu'elle a, elle a déjà prévu une brèche, un préfinancement en pharmacie sur cette structure, pour que les enseignants soient servis convenablement. Donc, j'ai lancé un appel à tous les enseignants de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'ils vont arriver dans le centre de santé, ils ne vont rien payer, moyennant seulement leur carte, et bénéficieront d'une prise en charge holistique.
Pour vous rassurer de la prise en charge correcte des enseignants, est-ce que vous avez placé l'un de vous dans les structures de santé pour les suivi?
Oui. Avec la politique de la mutuelle, la MESP, elle a prévu un représentant ou un délégué mutualiste qui a reçu une formation paramédicale où je peux appeler un point focal qui sera là en permanence dans la structure. Lorsque l'enseignant arrive dans la structure dans le centre de santé auquel il est affecté, il va chercher le bureau du délégué. Et lorsqu'il va rencontrer le délégué, il présentera sa carte d'accès aux soins et le délégué va l'orienter pour la prise en charge jusqu'à la fin.
Et l'opération que vous débutez aujourd'hui au chef-lieu de la province, ça sera quand dans le territoire?
Oui, nous avons commencé la prise en charge ici dans la ville de Kindu et dans un futur très rapproché, nous arriverons à ces enseignants qui sont dans le territoire pour commencer avec une identification mobile, ensuite passer à la phase de la prise en charge. Oui, je fais un appel aux enseignants, d'abord de ceux de Kindu, pour ceux qui sont déjà identifiés, de passer ce lundi à notre bâtiment, à le bâtiment de la MESP, pour le retrait de leur carte et la signature de la charte pour leur donner accès aux soins. Pour ceux qui sont encore en train de ralentir le pas pour l'identification, nous vous appelons, venez vous faire identifier afin d'avoir accès aux soins de santé.
Et quelle garantie pour ceux-là qui sont dans les territoires? Ils ont aussi les mêmes droits parce qu'ils aussi cotisent pour la MSP.
Et pour ceux qui sont à l'intérieur dans les territoires, nous vous rassurons que nous viendrons d'ici là. Parce que même si il s'avérait qu'un enseignant de territoire s'est retrouvé à Kindu pour une raison quelconque, et s'il a un problème de santé, la MSP le prendra à charge sans problème.
Compagnie Kalambay Placide. Je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Il s'agit du coordonnateur provincial de la Mutuelle de Santé des Enseignants de l'EPSP au Maniema. Et c'est la fin de ce journal. Babène Pongo Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Alain Goy à la technique et Livin Binga à la supervision. À vous qui nous avez suivis, merci de votre attention. Passez un bon week-end.